longtemps le dernier bastion du sport amateur parmi les grands sports collectifs. Le rugby n'est devenu professionnel qu'en 1995, ce qui, à l'échelle de l'histoire du sport, finalement, est très récent. Il a tenu bon face à toutes les tentatives de mettre de l'argent, de faire des profits. Pendant des décennies, les tenants de l'International Rugby Board, des anglo-saxons, des gentlemen, ont dit non, ce sport ne deviendra pas professionnel. Et en 1995, ils ont craqué. Et qui les a fait craquer ? Eh bien, c'est un grand mania des médias qu'on connaît bien, Rupert Murdoch.
Ah, je croyais que c'était Serge Halimi.
Il était peut-être dans la boucle, mais je peux pas forcément parler. Voilà. Et donc, en 1995, il fait une proposition qui ne se refuse pas. Il propose de racheter les droits télé de l'hémisphère sud. On sait que Murdoch est australien. Donc, les droits télé des championnats de Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud. Et il met sur la table 550 millions d'euros. Et il propose aux joueurs de rugby qui n'étaient pas payés... Enfin, en fait, ils étaient payés, c'est ce qu'on appelait l'amateurisme marron, c'est-à-dire qu'on leur proposait des postes, par exemple en France, dans des mairies, une reconversion après leur carrière. Mais là, il en allait tout autrement. On leur proposait de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Ça n'avait plus rien à voir. Et alors, Murdoch a dit, si vous n'acceptez pas, c'est simple, je crée ma ligue privée. Vu l'argent que je mets, tout le monde va me suivre. Et donc, l'IRB est allé à Canossa, ils ont dit...
L'IRB
International Rugby Board, c'est la Fédération Internationale de Rugby. Donc, ils ont fait mine de s'offusquer, et puis quand ils ont vu le chèque qu'on leur proposait, ils ont dit, ok, d'accord, mais on va quand même sauvegarder les valeurs du rugby, parce que c'est un sport très amusant, le rugby, c'est un sport qui met toujours en avant des valeurs. On ne sait pas trop ce que c'est, les valeurs, mais les valeurs sont devenues sonnantes et trébuchantes depuis 15 ans.
Non, mais ce qu'il faut citer, c'est ce que vous racontez dans le papier, c'est qu'il arrive qu'on sélectionne un joueur, non pas sur ses qualités de joueur, mais sur son physique, parce que comme on fait un calendrier, et il faut des gars photogéniques pour ce calendrier, donc on les sélectionne d'après leur aspect.
C'est ça, là il faut parler d'un cas très précis, c'est le cas de Max Guazzini, qui est le président du Stade français. Max Guazzini a introduit le merchandising sportif, le marketing sportif. C'est lui qui est le génial créateur du calendrier des dieux du stade. Alors, c'est quoi le calendrier des dieux du stade pour les non-spécialistes? C'est un calendrier dans lequel des joueurs du Stade français et d'autres joueurs français posent dans le plus simple appareil. Ça se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Et en fait, ce qu'a révélé un ancien entraîneur du Stade français qui s'est fait virer à l'automne dernier, en fait, il a vendu la mèche. Il a dit, attendez, ce calendrier c'est bien sympathique, je ne suis pas contre, mais le problème c'est que le président du Stade français a refusé de recruter certains joueurs parce qu'ils n'étaient pas assez justement photogéniques. Donc on voit la dérive marketing là quand même, et on la voit aussi avec le cas Chabal, la Chabalmania.
Ah oui, ce joueur
Sébastien
magnifique.
Sébastien Chabal.
Oui, magnifique.
Pas s'il est magnifique, mais il a une curiosité très développée.
Ah, mais c'est un bon joueur, moi je l'ai vu.
Non, mais justement, il n'est pas si bon que ça.
Ah bon ?
Désolé, hein. Il a émergé, en fait, la figure de Chabal a émergé à l'été 2007, lors d'une tournée du 15 de France dans l'hémisphère sud. Là, il a commis deux exploits. C'est un joueur percutant. Hein. Il a donc brisé la mâchoire d'un Néo-Zélandais, et ensuite il a collé un tampon, hein, c'est le terme technique, à un autre Néo-Zélandais qui s'est retrouvé au sol. Ça a été le début de la Chabalmania, parce que ces deux images ont été repassées en boucle sur Internet, et tout de suite, les publicitaires, les spécialistes de marketing, les médias ont flairé le bon coup. Ils se sont dit, avec Chabal, on tient une icône du marketing. Et c'est là qu'a débuté la Chabalmania. Bon, tout le monde connaît, ou peut-être pas tout le monde, les surnoms très pittoresques de Chabal, Attila, la bête, l'homme des cavernes, et même l'anesthésiste.
Ah ouais, formidable.
Voilà. Et la particularité de ce phénomène, c'est qu'elle n'a pas grand rapport avec ses qualités sportives.
Pour les amateurs de rugby, il est bon ou pas ?
Ben, il est moyennement bon. Il a sa place dans le 15 de France, mais il a été mis en avant par Bernard Laporte en 2007 parce qu'il fallait une icône marketing. En 2003, on avait eu le même cas avec Frédéric Michalak, qui a longtemps été une vedette du calendrier des stades français. Du Stade français, il a souvent posé en petite tenue. Et 4 ans après, les spécialistes du marketing et les publicitaires ont trouvé Chabal. Alors, c'est pas le style, c'est moins glamour, on va dire, que Michalak, mais ça frappe les esprits. Et Fabien Pelousse lui-même, un ancien capitaine du 15 de France, a dit dans ses mémoires, il a dit, bon, Chabal, c'est un bon joueur, mais sa notoriété n'est pas en rapport avec ses qualités sportives. C'est ça le nouveau rugby, ce qu'on appelle le rugby-business.
Des réactions ?
Ben, pour Chabal, vous oubliez son essai de 50 mètres au Parc des Princes contre Sale.
Ah. Mais pardon, je ne l'avais pas mentionné, vous faites bien de le rappeler. Hein.
Ah oui, quand même.
Sans percussion.
Alors là.
Heureusement qu'il marque des essais quand même.
Allez, franchement.
Je vais vous répondre. Je vais vous répondre ce qu'a répondu, ce que m'a dit un certain Gilles Dumas, directeur de Sport Lab, une grande maison de marketing. Il m'a dit, David Garcia, Chabal, c'est une sorte de bestialité à moitié domestiquée.
Bon, d'autres observations sur le rugby ? Ok, une illustration de Bernard et après un débat avec les questions que vous voulez.